Et bien que ne vivant pas à l'époque du Sinaï, nous pourrions aller, aller vérifier qu'il y a cette voix qui parle, eh bien nous pouvons le faire dans le Beit HaMidrash. Permanent. Ou minaïn, ce Mahamad Arsinaï Levado, hi Ariaya Linvoato, Cheyemet Chen Bodofi. Et nous savons que c'est essentiellement le Mahamad Arsinaï qui a été l'habilitation, et lui seul, qui a été l'habilitation de l'authenticité prophétique de Moïse, et pas les miracles ou les signes. D'où nous savons cela. Shenema, parce qu'il est écrit dans l'Exode. Iné anochi ba elecha be'a ve'anam. Voici, je viendrai vers toi dans l'opaque de la nuée. Ba'abur ishmar ha'am bedaveri imach, afin que le peuple m'entende te parler, entende moi te parlant, littéralement, ve'gam becha ya'aminu le'olam. Et à toi aussi, ils auront foi à jamais. De quoi s'agit-il? Il s'agit du verset qui introduit précisément cette scène du Mahamad Arsinaï. Lorsque Dieu dit à Moïse, eh bien, je descendrai moi-même sur la montagne. Pourquoi? Non pas pour te parler, ça je peux te parler n'importe où, n'importe comment, c'est un autre problème. Vous comprenez? C'était pas pour dire à Moïse quelque chose sur la montagne, que Dieu est descendu sur la montagne pour parler, mais afin que le peuple, et c'était le rendez-vous qui avait été donné, afin que le peuple entende que c'est Dieu qui parle à Moïse. Et de telle sorte que Moïse soit habilité. Et par conséquent, le peuple a été appelé pour un moment de notre histoire en une sorte de préfiguration et de matana, en une matan Torah, de cadeau, a été appelé à ce privilège de pouvoir être compagnon de la prophétie de Moïse, et bien qu'il n'était pas encore par nature à ce niveau de l'identité de Moïse, mais pour qu'il puisse y avoir ce témoignage. Et tout se passe comme si cette expérience nous a été donnée en une fois en cadeau, et qu'ensuite elle nous est reprise. Moïse seul continue. Vous rappelez de la cohérence du texte. Et puis que nous devons la récupérer lentement, lentement, avec notre propre mérite, jusqu'à arriver, ce sera la génération du Messie, jusqu'à arriver à être capable de cette identité-là. Pas comme un cadeau qui nous a été donné une fois parce qu'il fallait habiliter Moïse, mais comme quelque chose que nous aurons à récupérer nous-mêmes. Je voudrais vous citer à ce propos un chidouche que j'ai entendu à Jérusalem sur la fameuse expression de Naase Benishma. Nous ferons et nous entendrons, littéralement. C'est que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse avec comme témoin d'écoute les Hébreux, mais c'était surtout pour habiliter Moïse, comme nous reverrons dans la phrase, alors les Hébreux ont dit, eh bien tout ce que Dieu dit, Naase Benishma, nous ferons et nous comprendrons après. Nous ferons et nous entendrons après. Et vous connaissez le drash de la Gemara à ce sujet, qu'effectivement nous sommes dans cette étape de notre histoire où l'ordre de notre comportement, c'est de faire d'abord ce que Moïse avait compris, et ensuite seulement nous pouvons le comprendre. Il y a donc un ordre méthodologique, faire d'abord et comprendre ensuite. Et on en a tiré plusieurs chitotes, plusieurs méthodes, non seulement de pédagogie, mais de théologie. Mais ce chidouche nuance un peu de cette manière en disant ça nous a été donné en cadeau une fois, et nous avons compris quand nous étions là. Et bien maintenant nous voulons par nous-mêmes agir de telle sorte de comprendre, de récupérer par nous-mêmes. Est-ce que vous avez compris la différence? Maintenant c'est le temps de narasser, d'agir de telle sorte que Nishma, que nous puissions avoir le mérite d'entendre. Nous avons vu, mais maintenant à partir du Sinaï commence, voilà à peu près ce qui s'est passé sous forme d'image. D'un coup Israël est appelé au haut de la montagne pour pouvoir avoir cette expérience. Et puis ensuite, Israël retombe de la montagne. Ce n'est plus qu'un mémoire, acte de foi. On sait que ça s'est passé. Et maintenant commence une ascension, narassée, de telle sorte d'arriver par soi-même à être capable de cette écoute et de cet entendement. Et effectivement, la règle à ce sujet, c'est que c'est la pratique des lois de cette loi, des mitzvot de la Torah, c'est la pratique du Shulchan Aruch qui a pour objet, selon cet enseignement, de conditionner chaque individu d'Israël de telle sorte qu'il devienne capable de prophétiser. Voilà que se découvre un autre objet du Shulchan Aruch. Se conduire de telle sorte que l'on arrive à la Kedusha, Capable de quoi? De la névoie, de remonter sur le Sinaï. Vous voyez ce qui s'est passé au Sinaï? On est monté par cadeau. Et on nous a donné un mode d'emploi, le Shuranao. Enfin, je veux dire à la limite. Ça commence, Torah Shevetar, Torah Shebaalpe, Mishnah, Gemara, Shuranao. Eh bien, on nous a donné une expérience, une foi et un mode d'emploi. Et on nous a dit maintenant redescends. Et conditionne-toi avec ça. On peut dire que c'est une méthode un peu pavlovienne, je ne sais pas comment on dit. Ça veut dire, fabrique-toi avec ça, tu arriveras de nouveau. À quoi? À la Kedusha, donc à la prophétie. Et c'est ce que nous disons en faisant chaque mitzvah. Asher ki deshanu bemitzvotav. Ça veut dire qu'il nous sanctifie, mais ça va changer de sens. Pas qu'il nous sanctifie comme ça, on ne sait pas par quelle opération de magie, mais qu'il nous fabrique en sainteté à travers les mitzvot. Et effectivement, l'objectif de la l'objectif idéal de la pratique sera, d'après ce texte, d'arriver à cette capacité de névoa que, une fois, tous les Hébreux ont eu par privilège de cadeau, Matan Torah, au Mahamad al-Sinaï. Mais retenez surtout que c'est pas seulement le conditionnement du corps par les actes, c'est surtout le conditionnement est peut-être un peu brutal. L'engendrement, l'émergence d'une certaine identité au niveau psychique et qui dépend de l'application du limoud, c'est-à-dire de se plonger dans ce monde de vérité de la lecture par la méthode talmudique, par la méthode du limoud, et pas seulement par celle de l'exégète. Comme vous le savez, les exégètes savent poser les questions, mais en général, c'est pas chez eux qu'on prend les réponses, on les prend dans les sources. Même si la source apparaît être un dur comme un rocher, sauf qu'il y a toujours une parole qui peut faire ouvrir le rocher pour que l'eau apparaisse. Et donc, c'est bien, finalement, ce que notre texte de Rambam nous dit ici. À la base de la page, vous aviez la fin du verset, « Verambecha yaminu le'olam » et même « En toi, ils auront foi à jamais, mais kelal shekodem davar zelo eminubo » C'est la preuve que quel que soit les miracles qu'il avait déjà fait, avant l'événement du Sinaï, les Hébreux n'ont pas eu foi en Moïse en tant que prophète, en tant que porteur de la parole de Dieu. Ils ont eu foi en lui en tant que faiseur de grandes choses. Faiseur de grandes choses, quoi? Eh bien, être capable de sortir un peuple de l'exil. De ça, ils ont eu foi en lui. De lui faire traverser la mer Rouge et de la faire se refermer sur les Égyptiens. Et ce ne sont pas que des images, puisque ça se passe. D'accord? Et en cela, ils ont eu foi en lui. Le verset qui précède la Shira, de Shiratayam, dit « Vaya minu bacher ou moshe aldo ». Ils ont eu foi en Dieu et en Moïse, son serviteur. Mais en tant que Eved, en tant que serviteur, faisant sortir Israël d'Égypte et lui faisant traverser la mer Rouge. Mais pas en tant encore que Nabi portant la parole de Dieu dans une loi. Cela encore, ils en voulaient la preuve, et les miracles ne pouvaient pas tenir lieu de preuve, mais l'expérience prophétique qu'ils ont eue eux-mêmes en compagnie de Moïse au Mahamad al-Sinaï. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Je voudrais vous reprendre un autre Hidush, la Gemara de Kiddushin d'ailleurs, mais un deuxième chapitre. À ce propos, dans la première Mishnah du deuxième chapitre dans Kiddushin, la Mishnah dit « Haish Mekadesh » vous rappelez « Bo ou Bishtucho » c'est-à-dire l'homme peut consacrer une femme en mariage « Bo » par lui-même ou « Bishtucho » par son envoyé. Par un chaliar, par procuration, on dit, je crois. Ça veut dire, bon, que la Mishnah nous enseigne quelque chose d'important, on peut se marier par procuration. Alors la Gemara objecte. Elle dit ceci, si toi, la Mishnah, tu nous enseignes qu'on peut se marier par procuration, et encore, il faut comprendre pourquoi on a le droit de se marier par procuration, c'est très dangereux, parce que le procurateur, si j'ose dire, doit dire à la fiancée, Areat Mekudeshetli et Kedot Moshe Israël, mais il parle de l'autre, n'est-ce pas? Alors, dangereux. Alors, les médiations de Shidduchim, comme ça. Et alors la Gemara raisonne en disant, si déjà tu m'enseignes qu'on peut se marier par procuration, j'ai pas besoin que tu m'enseignes qu'on peut se marier par soi-même. Il suffit de me dire, on peut aussi se marier par procuration. Mais la Mishnah a dit qu'on peut se marier par soi-même et par procuration. Vous comprenez la difficulté? Alors la Gemara objecte en disant Hashta Bishlucho Mekadesh Bome Baya, point d'interrogation. Ça veut dire maintenant, si déjà il peut marier par un chaliar, par un procurateur, je ne sais pas comment dire, par un envoyé. Est-ce que j'ai besoin qu'il me dise que par lui il peut aussi? Mais c'est une grande difficulté. Et là, Gamara répond, c'est pour nous faire comprendre quelque chose de très important, qui vaut mieux par lui que par lui. Que par toi. Ça veut dire que c'est une plus grande mitzvah de se marier par soi-même que par procuration, à la limite. Bon. Il s'agit de la procédure du mariage, pas bien sûr. Et alors à ce propos, du mariage, alors à ce propos, on rattache cet enseignement à ce qui s'est passé au Mahamad Har Sinaï. Parce que ce verset que Maïmonide vient de nous citer, voici, je viens vers toi dans la nuée, enveloppée de cette nuée, parce que les yeux des autres seraient aveuglés de la lumière. Il fallait que ce soit dans l'opacité, puisque les autres ne sont pas encore capables. Le verset qui précède, c'est précisément quand Moïse est chargé de dire à Israël toute la Torah en un seul verset, je vous appelle à être un peuple de prêtres, de guides, de Kohanim et une nation de la sainteté, que les Hébreux entendent ça comme quelque chose de radicalement nouveau et ils disent à Moïse, Kol asher diber Hashem na'ase, dans ce premier verset, il n'y a pas encore Benishma. Tout ce que Dieu dira, nous ferons. Et nous traduisons cela habituellement, nous l'avons appris une fois, dans une louange pour Israël, d'accepter que ce que Dieu dira, ils feront. Kol asher diber Hashem na'ase, ça veut dire acceptation en principe. La Gemara n'a pas dit ça comme ça. La Gemara dit, et Maïmonide vient de nous le confirmer, ils veulent dire à Moïse, ce que Dieu dira, nous ferons. C'est un accent. Tu viens nous dire, toi, Moïse, une chose inouïe. Nous sommes un peuple qui était en exil, et puis qui veut maintenant rentrer chez lui, selon les promesses. Et tu viens nous dire, toi, qui nous libère d'exil, qu'il y a un tout autre programme, qu'il s'agit d'autre chose, qu'on va devenir un peuple de prêtres et une nation saine. Pas c'est actuellement ceux qui travaillent, la génération actuelle. Bon, on a fini l'exil, on veut rentrer chez nous et faire des kibbutzim, et faire des tout ce que vous voudrez. Et puis voilà qu'il y a encore des juifs qui s'entêtent à dire, mais non, mais rappelez-vous, il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit de devenir Mamlechet Goanim Begoy Kadosh. Alors, c'est encore le stade où on nous répond, ah, vous êtes croyant, ça n'a rien à voir. Ah, vous êtes dati, il ne s'agit pas de dati, il s'agit de Torah. Vous comprenez, il s'agit de l'identité même d'Israël. Jusqu'au moment où ça se dénouera, parce que ça ne peut pas ne pas se dénouer, comme vous le savez. Eh bien, la Torah nous dit que Moïse a rapporté les paroles du peuple à Dieu. Et alors Dieu dit, puisqu'il en est ainsi, « Hineniba, je vais moi-même descendre », ça veut dire en quelque sorte que Moïse, que Dieu a compris la question du peuple. Ça veut dire que Dieu a admis qu'effectivement, la chose était tellement nouvelle, qu'un tel chidouche, pour eux, sauf pour la tribu de Lévi, mais qui était des Talmidei Chachamim. Mais imaginez qu'on va dire aux Juifs, ça y est, la grande tribulation de l'épreuve de l'histoire pendant 2000 ans a cessé. Et maintenant quoi? On rentre chez soi, Moïse. Très bien. Mais quoi? Eh bien, ne croyez pas que c'est simple. C'est pour être Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, avec une Torah. De ça, ils n'avaient pas encore entendu parler. Alors on comprend que c'est cette scène que nous vivons actuellement, quand les uns refusent les autres, les uns étant les Dati, et les losatim et les autres étant les atim. Si j'osais une blague très très blague, très énorme, hein, entre l'hébreu et le français, c'est vraiment une diha, hein, pour un peu détendre l'atmosphère. C'est que le juste est comparé au palmier, comme vous savez, tzadik katamar ifrah, c'est une blague en franc bleu, comme on dit là-bas, en franc bleu, oui, c'est-à-dire français et hébreu. Et comme on dit franglais ici. Tzadik katamar ifrah, le juste rira comme le palmier. Mais nous savons qu'il y a deux sortes de justes parce qu'il y a deux sortes de palmiers. Il y a le palmier datier et le palmier lodatier. Bien, alors en tout cas pour revenir au problème, Moïse ramène la parole du peuple à Dieu et il la ramène en plaidant pour Israël. Ce n'est pas que vraiment ils ont refusé. Et ils ont dit, Retsonenu lirot et amelech. Nous voulons voir le roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors on cite cette Gemara que je vous ai citée tout à l'heure. Hashta bishlucho mekadesh. Jusqu'à présent, il nous a demandé en mariage avec par procuration. Maintenant, bon, mes mariages. Maintenant, nous voulons lui. Vous voyez la différence. Et d'ailleurs, c'est un thème important. Vous avez compris le... C'est-à-dire, c'est un thème important, parce qu'après tout, il fallait aussi évacuer le rite d'idolâtrer Moïse. Hein? Et c'est un peuple intelligent, sauf ça. Il a demandé de voir le roi, parce qu'il ne faut pas prendre le serviteur pour le roi. Il ne faut pas en faire un Christ, entre guillemets, si j'ose dire, pour parler d'autre chose. Il ne faut pas diviniser Moïse. Et pour ça, il faut savoir qui est le Dieu de Moïse. Et non pas... C'est clair jusque-là, c'est ce que disait Maïmonide dans ce premier paragraphe de ce chapitre. Et là, lorsqu'ils avaient foi en Moïse avant le Mahamad Arsinaï, les Manout Sheye Shahareha et Hur Mahashava, ils avaient foi, mais avec des arrière-pensées. C'est-à-dire de se dire, bon, il y a quelque chose. Si Moïse fait ce qu'il fait, il y a quelque chose. Et peut-être que lorsqu'il nous dit les commandements, il y a quelque chose. Mais peut-être, parce qu'au fond, il n'y a pas de rapport. Quel rapport entre la Torah et ces grands événements qui passent à travers l'histoire d'Israël? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes en plein controverse entre intellectuels juifs, comme ils disent, de savoir si les... D'ailleurs, ça se passe à un autre sens communautaire. Dommage qu'on ne savait pas, sinon on aurait fait ça ensemble. Mais ça aurait été profitable. Mais enfin, là-bas, ils sont en train de dire, je suppose, eh bien, que toutes ces choses qui se passent dans notre histoire, maintenant y compris, eh bien quoi, c'est pas plus qu'autre chose. Non, je ne sais pas comment dire ça, mais vous avez compris. Et que le fait de dire, non, il se passe quelque chose derrière ce qui se passe, que ça, c'est de la chutzpa de mystique et de croyant et de. Vous comprenez à quoi je fais pas allusion? Eh bien. C'est demain soir. Mamash? Non, c'est ce soir. Regardez le dieu des coïncidences. Bien, alors revenons au problème. Cette génération du peuple. Cette génération du peuple, jusqu'à ce temps-là, jusqu'avant l'épisode du Sinaï, bien sûr, percevait, plus ou moins, qu'il se passait quelque chose dans l'histoire d'Israël grâce à Moïse, mais enfin, Moïse n'était encore pas habilité en ce qu'il disait d'essentiel, c'est qu'il s'agissait d'accéder à une mutation d'identité humaine qui ferait passer l'identité d'Israël à un autre stade de l'histoire de l'homme. Et pour cela, il fallait qu'il y ait preuve par expérience de soi-même. Parce que, comme nous explique clairement Maïmonide, on ne peut pas passer par expérience d'autrui pour cela, même pas si autrui fait des miracles. Parce que le miracle, on pourrait en rendre compte autrement. Voilà à peu près la thèse de Maïmonide, et c'est donc très essentiel. Continuons donc maintenant le deuxième chapitre, avant que vous vouliez. Peut-être, si sur ce premier paragraphe vous avez des questions, ça me permettrait un peu de faire une absaquette. Si vous avez des questions, prenons 2 minutes pour ça. Et on continuera sur le deuxième paragraphe. On a le temps, allez. Il n'y a pas de questions?
Est-ce que le Messie sera obligatoirement un juif?
C'est un prophète?
Mais attendez, je vais essayer de répondre à la question. Écoutez, si vous m'aviez posé la question sous la forme suivante, est-ce que le Messie sera obligatoirement un Israélien? Là, il y a une question. Mais si vous me dites, est-ce que le Messie sera obligatoirement un juif, je voudrais comprendre quelle est l'attendue de votre question. Pourquoi vous me posez cette question? Qu'est-ce que vous entendez par là?
Parce qu'il est écrit dans le prophète Isaïe qu'un rameau sortira de la souche de Jessé. Or, un rameau, c'est pas un juif entier, c'est une Enfin, un rameau, c'est une partie très petite.
Écoutez...
Alors, est-ce qu'il sera juif à part entière, ou alors ce sera un juif...
Ça y est. Ça voulait dire, est-ce qu'il sera juif pratiquant sur le commandement?
Non, par exemple, ça peut très bien être un goy qui a eu une âme juive. Ben si, ça arrive, ça.
Non. Bon, alors écoutez, je crois qu'on pouvait répondre de la manière suivante. Premièrement, bon, pour la réponse claire, il n'y a pas de problème. Toutes les écoles sont d'accord, malgré toutes les controverses possibles, qu'effectivement, ça serait injuste. Mais s'il y a une question, c'est de savoir si ce serait un Israélien ou un juif de la diaspora. Ça peut être une question. C'est pour revenir un peu au problème.
Non, parce qu'à ce moment, il peut prendre la nationalité israélienne.
Ce serait souhaitable. Non, mais je vais répondre. Simplement, à l'expression que vous avez employée, un goy qui a une âme juive, pour parler aussi de cela, finalement, ça se sait, ça se dévoile, il devient juif. On revient au cas précédent, comme disaient les polytechniciens. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Oui.
Mon frère est fort. Il y a un fils que vous-même avez dit qu'il aurait deux messies, un messie Ben Joseph et un messie Ben David. Le messie Ben Joseph sera un juif de la diaspora, mais le messie Ben David, un juif israélien.
Très probable. Et il est très probable qu'effectivement, nous sommes déjà dans l'époque où les juifs de la diaspora venus en Israël, c'est ça le messie de Joseph, que maintenant, deuxième étape, l'Israël sortira le Messie de Judas. Oui, si on comprend bien ce que Joseph a fait dans l'histoire, et la raison pour laquelle on l'appelle fils de Joseph, selon d'ailleurs la prophétie d'Ovadia, il s'agit bien de cela, que de la maison de Jacob en exil reviendra le fils de Jacob, c'est-à-dire Joseph, dans le sens de l'expression employée par le prophète. C'était le prophète Obadiah ? Veïa, Bet Yaakov, Esh, la messe, ou Bet Yosef, et Hava, qu'une flamme sortira de la maison de Jacob en feu. C'est pas Obadiah. Donc, en fait, c'est le prophète. Et alors, attendez, j'ai terminé. Et effectivement, il semble que on pourrait répondre de cette manière. Une première étape. Du retour des exilés à Sion, Shlomo Maïmonide d'ailleurs, je pense au Ilchot Melachim, c'est l'étape du Mashiach Ben Yosef, et une fois le retour des exilés réalisé, alors apparaîtra le Mashiach Ben David. Bien. Et tu as une autre question, je crois? Là? Oui, rapidement.
Est-ce qu'on peut considérer, par une définition de la névoie, comme on dit, que Herzl
avait... C'est-à-dire qu'on peut considérer. Que, on m'a posé la question suivante. Étant donné la définition de la névoie, de la prophétie que l'on vient d'apprendre, est-ce que Herzl serait de cet ordre? Je ne vois pas bien le rapport, parce que je ne vois pas encore comment se relier. Ce qu'on pourrait considérer, c'est qu'il est bien évident que l'œuvre de Herzl a considéré à rendre... C'est historiquement qu'on récapitule sur lui ce qui s'est passé, mais à rendre possible ce que les prophètes avaient annoncé. C'est-à-dire qu'il a été le véhicule de l'accomplissement de la prophétie. Le fait d'avoir, avec une telle intensité, une telle fougue, une telle ténacité aussi, s'être entêté à faire tout ce qu'il fallait pour que la prophétie des prophètes se réalise, en tout cas sur ces points-là, montre que son œuvre est de type messianique. Prophète, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il a été, un des ouvriers de la messianité. Prophète, tous les juifs qui croyaient qu'il fallait retourner à Sion l'auraient été, des prophètes. Et ça veut dire qu'ils ont réalisé ce que les prophètes avaient dit. En ce sens que toute la foi d'Israël et toute sa fidélité était que les prophètes ont parlé en vérité, que de même qu'il y a eu exil, de même il y aura retour, et par conséquent tous ceux qui travaillent au retour sont des serviteurs de la messianité. De là à dire qu'en cela ils sont prophètes, c'est un peu une façon de parler. Vous comprenez ce que je veux dire ? On peut dire, si vous voulez, qu'on emploiera ce terme dans le sens qu'il y a dans la langue courante de voir un peu avant les autres ce qu'ils vont faire, ça veut dire être prophète. Mais non, ici, dans notre définition, ça veut dire vraiment être capable de dire ce que Dieu a à dire lorsque la question est posée. De l'absolu de cette, cette prophétie-là n'est pas encore arrivée.
Il a se rappeler au centre de sa génération.
Bien, ça veut dire qu'il a effectivement un mérite assez exceptionnel. Vous savez d'ailleurs que l'œuvre de Herzl s'explique par l'œuvre du rabbin que sa famille a habité, une petite ville de Yougoslavie, qui était le Rabbi Yehuda Alkalai. Et le Rabbi Yehuda Alkalai, bien avant Herzl, a écrit dans son œuvre tout le programme de ce qui se passe actuellement, dont une partie seulement a été reprise à la suite de toute l'imprégnation traditionnelle que Herzl a eue dans sa famille, qui était, j'ai oublié le nom de la petite ville, mais je pouvais le retrouver, c'est une famille sfarad de Yougoslavie, des Balkans, imprégnée par l'enseignement de... C'est vrai, je ne sais pas si vous savez qu'Herzl était sfarad, enfin, c'est pas grave, un peu là. Et il a, dans son œuvre, je parle du... enfin, comment dire, il dit, mal et... Il a vu tout le programme, plus que ce qu'il y a dans l'état juif de Herzl, il a vu aussi ce qu'il fallait faire pour faire la paix avec les Arabes. Ce qui, dans le sionisme herzélien, n'est pas encore très bien vu. Mais dans l'œuvre de Alkalai, on sait déjà comment. Bon, ça, on y arrivera peut-être à un autre sujet. S'il n'y a pas... Oui.
Choisi le peuple d'Israël pour leur donner la Torah. Or, il y a notre image, c'est pour dire que Dieu a pris une montagne et il les a obligés. Enfin, il apparaît qu'il y a certaines contraintes.
Vous voulez que nous revenions à ce problème ? Pour moi, c'est important, oui.
Et ma deuxième petite question, c'est quelque chose de plus actuel. Le rabbin Lorel avait déclaré qu'il y avait trois prophéties qui ont été accomplies, je veux savoir les
questions
de
courant. Dans quelle interview il a dit ça?
Si vous êtes en ligne, vous avez vu ça dans la presse.
Vous vous rappelez pas je ne me rappelle pas de quoi il peut s'agir pour ça. Mais je pense qu'il a pu vouloir dire ces choses importantes et classiques, que la prophétie du retour est en train de s'accomplir, que la prophétie de l'indépendance est accomplie, et que probablement la troisième, c'est sûrement Jérusalem, que cela s'est accompli. Vous vous rappelez de ce midrash de Rabbi Akiva, dans la Gemara, Rabbi Akiva et ses chaverim, et ses condisciples, se promenaient à côté des ruines du temple, et tous les rabbins pleuraient de voir les ruines du temple, et Rabbi Akiva riait. Vous vous rappelez de ce midrash, très important. Et alors, les compagnons de Rabbi Akiva lui ont dit comment ? Les ruines du temple, des chacals dans le temple, et à l'endroit du temple, Harabaït, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour les Tanaïm, ce que c'était. Et toi, Rabbi Akiva, tu ris. Elle dit, et vous, pourquoi vous pleurez ? Alors, ils ont pleuré pour ça. Et moi, je ris pour ça. Il dit comment ? Ici, déjà, les prophéties que ça serait détruit se sont accomplies. Alors on peut compter que les prophéties que ça sera reconstruit seront accomplies aussi. Alors, seront accomplies aussi. Alors à partir du moment, et nous sommes beaucoup plus privilégiés, parce qu'effectivement le retour a commencé. Et même si nous ne comprenons pas comment ça marche, comment ça se fabrique, et je vous le dis souvent, c'est une société là-bas où tout est tellement en désordre, c'est arrête ça, tohu vabohu, c'est une pagaille monumentale, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, vous n'avez aucune idée. Tout ce qu'on vous dit que c'est difficile, c'est rien, venez voir. Et que malgré ça, ça marche. Il y a quelque chose. Alors, en tout cas, pour revenir à votre première question, qui est d'ailleurs assez importante. La Torah nous dit que, effectivement, au pied du Sinaï, le peuple juif sorti d'Égypte, après les 49 jours du Dieu en mer, après les 49 étapes qui le mènent au Sinaï, est appelé à la révélation de la loi et l'accepte. Premier texte. Ce n'est pas un midrash, c'est la Torah elle-même. Mais nous avons dans la Gemara de Shabbat un midrash qui dit, à cause d'une particularité d'un verset, « Vaïtiatsev aram betachtit ha'ar » que le peuple s'est rassemblé au bas de la montagne. Mais le mot hébreu pour dire « au bas de la montagne » peut se traduire « en dessous de la montagne ». En dessous, « betachtit » et non pas simplement « tahat » au pied de la montagne, mais « en dessous de la montagne ». Alors le midrash, utilisant cette particularité, nous dit ceci. Cela nous apprend que Dieu a soulevé la montagne sur Israël et leur a dit, vous acceptez la loi, c'est bien, vous ne l'acceptez pas, je lâche la montagne. Et... que, pris de panique, le peuple a accepté. Alors, ce midrash veut nous expliquer qu'en réalité, la véritable alliance de la Torah sera confirmée plus tard par Israël en toute liberté. Et c'est l'alliance par rapport à la Torah Shebealpé, à l'alliance par rapport à la Torah orale. Parce que l'alliance par rapport à la Torah écrite, on ne peut pas refuser. C'est ce que ce midrash veut indiquer dans sa manière. Je le traduirai un peu autrement. Imaginez ce qui se passe là. C'est que le peuple arrive en fin de compte, si nous prenons la cohérence du récit comme elle est, le peuple arrive en fin de compte dans une situation, c'est que c'est Dieu qui est présent. Et vous croyez que Dieu étant présent, on peut dire non? C'est ça que le midrash veut dire. Ça veut dire qu'en fait, au sommet de la montagne, on n'était pas libre. Et que dire non, c'était déclencher cette catastrophe d'annulation d'identité. Comment Dieu, vient dire, tu veux, et je vais dire non, je veux pas, c'est pas possible. C'est ce que je veux dire. C'est clair? Ça veut dire, à ce niveau-là, on est privé de liberté. Alors où était le mérite? Le mérite, c'était d'être allé là-bas. Vous comprenez? C'est ça le mérite. Le mérite, c'était d'arriver jusque-là. Mais là-bas, on n'était plus libre. Vous savez, c'est le problème du mariage que c'est une tradition. Bon, vous avez compris, alors j'explique pas. Effectivement, devant la Torah Shebirtav, on n'est pas libre. On n'est pas libre de faire que ce livre soit autre qu'il soit. On n'est pas libre de faire que ce livre a fait dans le monde ne soit pas fait. On n'est pas libre de faire que lorsqu'on avale ce livre, qu'on n'en soit pas transformé. Ce qui se passe d'ailleurs, je reviens à mon sujet sempiternel, dans les écoles d'Israël actuellement, aussi les écoles juives de la Gola d'ailleurs, mais surtout là-bas, on emmagasine la Bible à la tonne, hein, et au kilomètre carré, si j'ose dire. Et chaque matin, quand le gosse vient ouvrir son cours de Bible, c'est comme s'il disait « mettez-moi 2 kilos hein ». C'est vraiment, ça fera du bruit un jour, ça. Ça explosera un jour, vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas faire que la Torah Shebirtav, elle est comme elle, que le Sefer Torah est là. Personne ne pourra nier que c'est ça la charte d'Israël. À l'échelle individuelle, on peut dire j'en fais pas partie, mais personne ne peut nier que s'il y a Israël, c'est ça. Mais la Torah Shebealpé, là on est libre. Lorsque le Mekouba, lorsque le Nabi, lorsque le Rabbi vient dire, et c'est ça que ça veut dire, ça on peut discuter, on est libre. On n'est pas devant Dieu, on est devant... on est devant la Torah. Là, on est. Et c'est pourquoi ce midrash que vous avez cité, qui se trouve dans la Gemara de Shabbat, veut confirmer ce que dit d'autre part un verset, Al-Pi Hadavarim Ha'elu Karati Verit Itrem. Et on traduit habituellement, c'est sur la foi de ces paroles que j'ai tranché l'alliance avec vous. Mais la Gemara explique, Al-Pi Hadavarim, sur la bouche de ces paroles. Ça veut dire quand elles sont sur la bouche, quand il s'agit de la Torah orale. Pas sur la Torah orale de ces paroles que j'ai tranché l'alliance avec lui. Et la véritable alliance de la Torah, c'est pas avec la Bible, c'est avec le Talmud, pour lire les choses à la limite. Vous comprenez, la Bible, eh bien, on peut en faire n'importe quoi. On peut en faire l'islam par Coran interposé, on peut en faire le christianisme à travers les évangiles, mais le Talmud, ça c'est Israël. C'est la Bible concernant Israël. Vous comprenez le c'est le Brit à Torah, l'alliance de la Torah, c'est avec la Torah orale. Entrer dans l'alliance de la Torah, c'est pas seulement faire de l'exégèse biblique, il faut, c'est indispensable, mais c'est faire de la Kabbalah, c'est d'arriver jusque-là. Alors, c'est là que c'est qu'est la vérité. Bien. Alors, chapitre 2, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui.
Je me demandais, dans l'esprit que vous avez apporté tout à l'heure sur Naaseh Benishma, est-ce qu'on peut imaginer une seconde formulation du Naaseh Benishma après la faute du Hegel, qui est arrivé juste après le Naaseh Benishma?
Et nous l'avons d'ailleurs. Nous avons deux fois le Naaseh
Benishma. Dans le même sens.
Avant la faute du Vaudorin, après la faute du Vaudorin. Ça veut dire effectivement, maintenant qu'on a eu cette expérience, alors on recommence pour remonter. Dans le même sens. Je crois que c'est très important comme thème. C'est-à-dire que. Ça élucide une difficulté assez importante pour les communautés juives. C'est qu'à l'échelle individuelle, on ne ressent pas forcément l'adéquation avec la Torah. On sait qu'à l'échelle collective, ça c'est la Torah d'Israël. Mais à l'échelle individuelle, quand on nous dit, quand on se dit, mais nous étions au Sinaï, mais nous sommes l'homme de ce peuple, nous sommes l'homme de cette conduite, on ne voit pas forcément. Il faut le faire par soi-même. Naaseh Benishma. Lorsque les rabbins nous disent, au fond on arrive là, c'est important, lorsque les rabbins nous disent, à force de pratiquer, vous comprendrez, c'est pas seulement plier la machine de Pascal, c'est pas seulement discipliner, après tu verras. Parce qu'en réalité, en général, tant qu'on s'arrête à la discipline, on n'arrive pas à comprendre. C'est qu'effectivement, il faut d'abord, là il y a un chidouche, se conditionner par la Torah pour pouvoir comprendre ce qu'elle dit. C'est une perspective des mitzvot qui est extrêmement importante. Je crois que ce n'est pas seulement des rites, c'est plus que cela. C'est la fabrication de la kedusha. C'est parce que nous avons mangé kasher, c'est parce que nous avons observé les lois de Nida, c'est parce que nous avons observé un certain calendrier que notre identité est devenue ce qu'elle est, à l'échelle collective, d'emblée, et à l'échelle individuelle, sous forme infinitésimale, pour qui pratique ou pour qui son grand-père a pratiqué. Jusque-là, ça va. Mais si on décroche, la Torah dit, Shileshim va arriver, la troisième, quatrième génération, après c'était décroché. Mais si on décroche, mamash, alors on se déconditionne, et on peut devenir n'importe quoi. On appelle ça le juif assimilé, pas le juif assimilé, mais enfin, le juif assimilé, il y a quatre ou cinq générations, et que finalement il se trouve déjudaïsé. Mais finalement, l'empreinte de ce conditionnement est telle que même chez les juifs russes, après un conditionnement marxiste trois générations, mais au moins deux générations, il a pu arriver cette résurrection d'identité qui nous a stupéfait tous dans le monde entier, les Russes y compris. Vous comprenez à quel point ça travaille, de ce point de vue-là, dans le Naaseh Benishma. Mais il ne faut pas risquer l'arbitraire. Sauf à l'échelle individuelle, c'est une loterie. Et chez qui ça va travailler? Il y a toute une génétique de cela à faire, mais nous ne sommes pas outillés pour une science de ce genre. Pourquoi ça passe par un tel plutôt que par tel autre à l'échelle individuelle? Alors il faut prendre tous les précautions et appliquer le mode d'emploi à tous, parce qu'on ne sait pas par qui ça passera. Grosso modo. Bon. Alors si vous voulez, abordons quand même le deuxième paragraphe. Oui.
Pour savoir, je crois que dans Devarim, Moïse, dans la répétition, a inversé les deux termes.
Zahor et Shamor. Oui, c'est vrai, dans...
Pourquoi il les a inversés?
Écoutez, parce qu'il y a deux stades. Il y a d'abord, vous avez l'explication, si vous voulez la voir dans la Gemara, dans cette même page où il y avait le Midrash, mais c'est dans le Tosfot du bas de la page. Attends, je vais essayer de vous donner la page. C'est la page 87 de la Gemara. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et il dit, pourquoi Israël est comparé à l'Étrog, c'est dans la fin de la page de Nagala. Pourquoi Israël est comparé au Cédra? Et la Gemara dit, de la même manière que le Cédra, le fruit précède les feuilles, de la même manière Israël a fait précéder Naaseh de Nishmar. Ça veut dire que l'ordre habituel, c'est que la feuille précède le fruit et que le Nishmar précède le Naaseh. Et la Gemara dit, Israël est comparé à l'Etrog, qui est à Pouar Be'aseh Ayahar, Ken Dodi Benabanot, comme la pomme parmi les arbres du chant, c'est du Cantique des Cantiques, ainsi est mon bien-aimé Benabanim, j'ai dit Benabanot, Benabanim, parmi les autres garçons, si vous voulez. Et alors on explique là-bas, Tapouar, ça veut dire le cédra, ici. Et alors la Gemara dit, parce que le cédra, le fruit précède la feuille. Tosfot objecte, on n'a jamais vu de cédra où les fruits viennent avant les feuilles. Vous comprenez la difficulté, des deux qu'on parle. Et même chez le cédratier, non, c'est le cédra, la feuille vient avant le fruit, il dit, comme il dit, voilà, c'est tout à fait autre chose. C'est que, la feuille de la récolte précédente ne tombe pas quand le fruit est venu, et par conséquent, le fruit est encore là quand la deuxième feuille va venir. Et il y a la feuille d'avant, le fruit et la feuille d'après. Alors, c'est cela, la partie de la comparaison. Le Naase Venishmar doit être remis dans une cohérence plus large. Il y a d'abord Nishmar, ensuite Naase, et après Nishmar. Ça veut dire, d'abord, il faut écouter ce qu'il faut faire. C'est dans ce sens-là. D'abord, il faut recevoir, écouter ce qu'il faut faire. Nishmar, d'abord, sinon je ne sais pas ce que je ferai, ce que j'aurai à faire. Alors, il y a d'abord Nishmar, et ensuite Naase. Mais je fais le Naase du Nishmar précédent avant même qu'arrive le Nishmar suivant. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reste à l'abri du Naase du premier Nishmar pendant que s'élabore le Nishmar qui viendra. C'est-à-dire de la même manière que pour le Cédra. Le fruit précède la feuille. Ça veut dire que nous sommes à l'abri du Shulchan Aruch, d'une révélation antérieure, pratiquant les mitzvot du Shulchan Aruch de Torah de Moshe, et en attendant que se formule le Shulchan Aruch du Torah de Mashiach. Nous sommes à l'abri du Shulchan Aruch de la Galout, en attendant que se formule le Shulchan Aruch des temps messianiques, etc. Et c'est la raison pour laquelle, quoi qu'il en soit, à chaque stade, bien que nous faisions après avoir entendu, nous faisons avant de comprendre. Voilà à peu près, si vous voulez. En réalité, le pshat était Kol Asher Dibur Hashem Naaseh V'Nishmar, un pshat qui est cité par Sforno au nom des rabbins de France et d'Espagne. Il cite cela à ce sujet. Et il dit que ça veut dire dans le pshat, tout ce que Dieu a dit, nous ferons, et nous sommes encore prêts à entendre s'il y a autre chose à faire. Ça, c'est le pshat fondamental. Kol Asher Dibur Hashem Naaseh V'Nishmar. Ça veut dire, de toute façon, ce qu'il a demandé déjà, nous ferons. V'Nishmar. Et on est prêt encore à écouter s'il y a encore à faire. Ça, c'était le pshat. Et de là, on a tiré le midrash qu'on fait avant d'écouter. Mais dans votre question, l'ordre, c'est d'abord écouter et ensuite faire. Mais ça, c'est l'ordre de celui qui enseigne. Celui qui enseigne, enfin, le décisionnaire, celui qui donne la loi, doit d'abord comprendre ce qu'il y a à faire pour dire ce qu'il y a à faire. Mais celui qui doit obéir à la loi, lui, doit d'abord faire, et ensuite, il comprendra pourquoi on lui a demandé de le faire. Voilà pour cette question. Alors, nous abordons, si vous voulez, quand même, le deuxième paragraphe. Nimseu elu sheshulach lahem, hem ha'edim al nevuato shehi emet. Et par conséquent, ceux chez qui Moïse a été envoyé, ceux pour qui Moïse a été envoyé, les Hébreux à qui Moïse a été envoyé, se trouvent donc être, eux, Aïdim Anebuato, les témoins de sa prophétie, chez Yémet, quelle est vérité. Et il n'est pas nécessaire de leur faire d'autres signes pour habiliter cette prophétie. C'est clair? Chehem Vehu Edim Madabar, parce que eux et lui sont les témoins de cette chose. Kishne Edim Sheraou Dabar Echad Beyahad, comme deux témoins qui ont vu ensemble le même événement. Vous savez que d'après la loi juive, il ne suffit pas d'un témoin, lorsque c'est important, il ne suffit pas d'un témoin, même un témoin de vérité, pour établir un témoignage. Il en faut au moins deux. Il faut au moins le consensus de deux points de vue. Et parce que nous savons, c'est la chose la plus difficile de réussir le témoignage. Je vais vous citer de mémoire un verset qui se trouve dans la Torah à propos des témoins. C'est les juges doivent être des juges intègres et ne pas recevoir de shohad, ne pas recevoir de cadeaux. Il ne doit pas y avoir de complaisance qui a shohad, parce que cette complaisance du cadeau, il y a aver en et hachamim, aveugle les yeux des sages, visalef ibret tzadikim, et falsifie les paroles des justes. Et habituellement, on lit ce verset en parlant des juges. Parce que si le juge reçoit un cadeau, cette complaisance aveuglera ses yeux à lui et transformera ses paroles à lui. Mais en fait, il est important de voir qu'il s'agit du témoignage. On ne peut établir un jugement que si le témoignage est authentique. Tout dépend du témoin. On a beau avoir la loi de vérité, le juge de vérité et la bonne volonté. Si le témoin est faux, toutes les décisions sont fausses. Vous comprenez pourquoi l'être de témoin est quelque chose de si important. Or, qu'est-ce que c'est être témoin? C'est savoir dire ce que l'on a vu, avoir des yeux et une bouche. Et le shohad aveuglera les yeux du témoin et la bouche du témoin. Et effectivement,